Alors, pourquoi la Russie?
Parce que cette année-là, en 1970, le président de la République, Marien Gwabi, avait décidé que tous les bacheliers devraient aller poursuivre leurs études supérieures dans les pays de l'Est.
Oui.
Alors que j'avais eu une bourse pour aller étudier en France. J'ai fini par aller à Moscou.
Oui.
Et j'ai fait mes études en économie forestière à Leningrad.
Oui. Qui est maintenant Saint-Pétersbourg, qui est devenu Saint-Pétersbourg. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ces années d'études à Saint-Pétersbourg?
Oh, ben, c'était des années de jeunesse. On était toujours très gais, on était joyeux, on était heureux d'apprendre, de savoir que nous préparions des carrières, que le pays avait besoin de ces cadres pour demain se développer.
Oui.
Et chacun, dans sa spécialité, s'efforçait d'être parmi les meilleurs.
D'accord.
Voilà. Et puis, et on a travaillé dans ce contexte-là. Puis, dans le temps, il y avait une sécurité assurée pour les étrangers.
Ma question n'est pas anodine, parce que depuis, la situation a beaucoup changé pour les étudiants étrangers, notamment les étudiants africains en Russie. Qui subissent quand même pas mal de brimades,
d'exactions
et de criminalité. Donc c'est une question que je trouve que assez importante. Est-ce que ça, à l'époque, vous avez subi ça ou vous avez eu une autre approche, un autre accueil par rapport à ce qui se passe en ce moment?
Bon, dans le temps, il faut dire que le parti communiste soviétique veillait aux bonnes relations avec les pays amis, les partis amis des pays en développement.
Oui.
Et aussi assurer la sécurité pour l'ensemble de sa société. Malgré cela, il y avait toujours des particularités dans certaines villes où l'agression était courante.
Oui. Vous avez connu ça?
Bon, non, personnellement, non.
Non.
Vous savez, quand vous êtes dans un milieu, il faut l'étudier, il faut connaître la sociologie locale.
Oui.
Évitez d'aller dans les endroits où on ne vous désire pas.
Exact.
Il faut pas, votre présence peut être juste une provocation pour
oui,
eux.
Oui.
Donc le mieux, c'est de se tenir carreau, d'être là où il n'y a pas de risque du tout. Et c'est ce que je faisais. Je n'allais pas dans n'importe quel milieu, je n'allais pas dans les boîtes de nuit, dans les bars, au restaurant à la limite, mais je n'allais pas ailleurs et puis je n'avais pas de fréquentation de jeunes locaux, des Russes et autres. Je n'allais pas chez les gens.
Oui. Donc, on va revenir à un sujet qui est plus
aujourd'hui, je déplore simplement la montée de la violence là-bas à l'égard des étrangers, surtout des Africains, des Noirs.
Oui.
Il y a déjà beaucoup d'années que les crânes rasés prenaient pour victimes les Africains.
Oui.
Et pour cible des Africains. Et moi, je pense que on a changé, beaucoup de choses ont changé depuis ces temps-là.
Est-ce que les gouvernements d'Afrique en tiennent compte par rapport avec le gouvernement russe par rapport à cela?
Mais il devrait en tenir compte.
Oui.
Ouais, il devrait en tenir compte.
Oui. Oui. Donc, je vais revenir à quelque chose de vous êtes ministre d'État de l'Agriculture, de l'Environnement. Donc, c'est une question un peu curieuse. Pourquoi l'environnement? Est-ce que dans votre enfance, vous avez toujours été
proche
de la nature, voilà.
Bon, aujourd'hui, je suis ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Oui.
Mais j'ai été aussi ministre de l'Environnement à deux reprises.
Oui.
Pourquoi? À cause de mes convictions, parce que je voudrais que nous préservions l'environnement mondial et particulièrement nos écosystèmes, que nous puissions exploiter notre biodiversité au service du développement et des intérêts de nos populations.
Oui.
Ce combat, oui, je l'ai mené avec beaucoup d'ardeur et j'ai dû conduire des processus sous-régionaux, donc dans le bassin du Congo,
oui,
par exemple, au niveau de l'Afrique, lorsque nous avons préparé le Rio plus 20,
oui.
Nous avons travaillé avec beaucoup d'engagement parce que le Congo était le coordonnateur de la position commune africaine.
Oui.
Donc il fallait la concevoir, la coordonner et être le porte-parole de l'Afrique à Rio plus 20.
Oui.
C'est ce que nous avons fait avec efficacité, puisque nous avons été fortement remerciés pour ça. Le président de la République,
oui,
le président Denis Sassou Nguesso a été, oui, félicité.
Oui, dans l'environnement, enfin, on va dire, dans le contexte du réchauffement climatique en ce moment, comment vous placez les gouvernements africains? Est-ce qu'il y a, vous pensez que vous faites assez par rapport à ça ou que vous, qu'on vous écoute moins ou peu ou qu'on essaie de vous entraîner dans un système qui ne sert pas forcément à l'Afrique?
Non, il y a des engagements globaux qui ont été pris au cours des différentes conférences des partis sur le changement climatique. Et je peux donc dire que les pays africains, comme tous les autres pays du monde, se doivent de suivre les orientations qui ont été données, les directives qui ont été données, pour que nous allions vers vers un environnement mieux géré, pour que nous puissions être victorieux dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour que nous puissions lutter efficacement contre la pauvreté pour un développement durable.
Donc, dans tout ce que
donc
vous...
les États ont l'obligation, bien sûr, de mettre en pratique, de mettre en œuvre tous ces engagements qui ont été pris à différents niveaux.
Oui. Est-ce que vous, pour revenir à la littérature, parce que nous sommes dans le cadre du Salon du Livre de la Brède, donc ici au château de Montesquieu, est-ce que c'est votre parcours, hein, on va dire les études en Russie, ce que vous avez subi en URSS, en Russie à l'époque, et par rapport à votre parcours, ça a façonné quelque part le romancier que vous êtes, parce qu'il faut le souligner, donc vous avez écrit plusieurs romans, donc est-ce que ces romans, j'ai regardé un peu ce que vous avez écrit, et on a l'impression que c'est à la fois, il y a de la partie romance aussi, mais quelque part vous avez aussi la partie politique et historique dans les trames, dans ce que vous voulez faire passer. Est-ce que la littérature pour vous, c'est un moyen de faire passer certains de vos idées, de ce que vous pensez de l'Afrique et du Congo en général.
Parfaitement. Je crois que l'écriture est un excellent outil pour communiquer avec les autres, pour leur faire connaître les pensées, mais aussi pour faire passer des messages.
Oui.
Pour faire passer des messages pertinents.
Oui.
Parce que ça, message, vous les faites partager à un grand public.
Oui.
Par le discours seul, par je ne sais pas quel autre moyen, on n'atteindrait pas tant de gens.
Oui.
Il vaut mieux que vraiment nous continuions à nous servir de l'écriture pour faire passer des messages, pour contribuer à l'éducation civique des populations, de la jeunesse. Ensuite, comment est-ce que moi qui ai fait des études en russe, je lis aujourd'hui des romans en français,
oui.
Des pièces de théâtre en français. Ouais.
Vous parlez le russe?
Konechno.
Konechno.
Voilà. Bon, d'abord, vous savez,
oui.
Que la langue, on l'apprend.
Oui.
On l'apprend d'abord à l'école primaire.
Oui.
Ensuite au collège et au lycée. Puis après, vous n'avez plus l'obligation. Tous les exercices qui se font sur la langue. Mmh. Maintenant, c'est la pratique. Vous écrivez. Mmh. Et ce que vous allez faire à l'université ne dérive que des classes antérieures. Si vous les avez mal passées, si vous n'avez pas aimé la langue, après, même adulte, vous aurez des lacunes dans l'expression. Donc, je peux dire que j'ai appris une langue classique à l'école avant d'aller à l'université. J'ai fait des études spéciales en russe.
Oui.
Mais la base du français est demeurée. Le français chez nous est une langue officielle.
Oui, mais j'ai pu comprendre que vous êtes défenseur de la langue française par rapport au... Bon, j'ai pris un petit peu en retard la conférence que vous étiez conviée tout à l'heure.
Ouais.
Et vous disiez que vous avez boycotté un petit peu le fait que ce soit complètement en anglais. On dit souvent, bien sûr, que l'Afrique, en fait, ce qui vient, sera... le futur de la France, qu'en pensez-vous? Parce qu'au niveau de l'expression, au niveau de ce qui a été ce qui est enseigné, qu'il y a une perte de vitesse en France, mais en fait que à l'inverse, en Afrique francophone, il y a cette culture de la langue française qui perdure.
Vous savez, la France restera quand même la source de la langue française, le moteur de cette langue. Mais si le moteur se fatigue,
oui.
Après
vous
la langue,
que le moteur se fatigue.
Non, mais il y a beaucoup d'indices.
Oui.
Je dis à des conférences, les Français préfèrent parler en anglais que dans leur langue. Je ne sais pas si c'est la mode qui fait ce qu'il le veut.
Oui.
Mais c'est pas de cette manière qu'on va promouvoir la langue.
Oui.
Il faut la pratiquer partout et à toutes les tribunes.
Oui.
Je peux suivre une conférence en anglais.
Oui, mais
je peux la suivre en russe.
Oui.
Mais si j'exige que de la suivre en français, c'est parce que je considère par principe que la langue que je dois parler officiellement, c'est le français.
Oui. D'accord. Puisque vous écrivez en français. Et pour revenir à la littérature, parce que c'est toujours dans le cadre, est-ce que vous avez un roman préféré parmi tout ce que vous avez écrit?
Le livre, c'est comme un enfant.
Oui.
Si vous avez plusieurs enfants, vous ne pouvez pas dire je préfère celui-ci à ceux-là. Non, vous les aimez toujours. Peut-être que si vous le dites, vous aurez répondu hâtivement et vous allez le regretter parce qu'après, vous verrez que ce n'est pas exact.
C'est une réponse de politicien, plutôt.
Non. Alors, donc, vous aimez presque tous les livres. Oui, oui. Je peux prendre n'importe lequel.
Oui.
C'est un livre très spécial. Vous mourrez dans 10 jours. Tout le monde pense que c'est... La traversée,
oui.
C'est pareil. Le mort vivant, les gens disent, mon Dieu, c'est... Chacun dit que c'est le meilleur des livres.
Oui.
Il y a Lumière des temps perdus qui n'est pas là.
Oui.
Sarah, ma belle cousine. Et tout ça, les gens...
Oui. Mais au niveau des personnages que vous avez quand même, parmi tous ceux que vous avez cités, un personnage qui vous tient plus à cœur...
Le personnage central que j'ai voulu unique, c'est Joseph Niamon.
Oui.
Joseph Niamon incarne la vertu.
Oui.
Il incarne le courage... Il incarne la vertu tout court, pour ne pas m'étendre. Et c'est à cela qu'il faut inviter notre jeunesse,
oui.
Inviter nos citoyens. Voilà.
Et encore une question, parce que dans votre agenda, vous êtes quand même très occupé. Vous étiez à Washington avant, vous êtes aujourd'hui en France à l'après, et demain vous serez vous repartez
à
Rome. Comment trouvez-vous le temps pour écrire à quel moment?
Quand on aime une chose, on lui trouve toujours un peu de temps à lui consacrer.
Oui.
Mais je peux dire que j'écris dès que je profite du moindre instant. Je peux passer 10-15 minutes devant l'ordinateur, j'écris et puis je ferme. Et puis à un autre moment, je peux passer 2-3 heures. Je peux le faire dans la nuit, je peux le faire le matin, je peux le faire dans la journée. Dans les avions, j'écris, j'aime bien écrire.
Dans les avions, oui, oui.
Dans les chambres d'hôtel, quand je suis en déplacement, en mission.
Oui.
En dehors des dossiers que je suis appelé à traiter pendant mes voyages, je pense également aux lettres.
Oui.
Donc, je dois écrire quelque chose.
Oui.
Et j'écris.
Voilà. Et le mot de la fin, que pensez-vous de ce salon de la Brette, qui est sa deuxième session? C'est vrai que pendant la première session, bon, c'est toujours très particulier de joindre un événement en cours et qui se développe. Qu'avez-vous pensé de cette invitation?
J'ai été heureux d'avoir été invité à cette édition. Heureux également de trouver une quarantaine d'autres écrivains ici, de voir leur production qui est très importante, intéressante, d'échanger avec les uns et les autres, de découvrir aussi un univers littéraire plus vaste.
Oui.
Parce qu'à d'autres salons, ce n'est pas les mêmes qu'on retrouvera.
Oui. C'est un petit peu particulier, Bordeaux, parce que Bordeaux a un passé quand même avec l'esclavage, avec l'Afrique, avec la traite. Donc c'est,
et avec ses grands écrivains.
Avec ses grands écrivains, plus ou moins, on va dire. je ne voulais pas dire. Hein.
Bien, ben, je dis que c'est un plaisir d'être ici, à Bordeaux. Participer à cet événement, de parler avec les autres, de découvrir de nouveaux livres, donc de découvrir de nouvelles parutions, et puis d'échanger avec les organisateurs de ce salon qui. D'en apprendre, hein, dans le cadre de l'organisation, pour que nous aussi, nos organisations, de mieux en mieux, nous puissions organiser de mieux en mieux nos manifestations. Parce que maintenant, il y a un salon du livre de Brazzaville.
Ah ben. Nous avons tous une citation pour le mot de la fin. Nous avons tous, bonjour, auteur, toujours une citation qu'on retient en tête. Est-ce que vous avez une citation pour, comme ça qui vous... Qui vous parle, qui à chaque fois que vous retenez et que vous ressortez. Juste une citation de n'importe qui. C'est la question un petit peu. Non, il n'y a rien. Mais de vous-même, d'ailleurs. Vous n'avez aucune phrase qui revienne, en fait, par rapport à ce que vous écrivez dans... Non?
Non, si, il doit en avoir beaucoup, mais je ne me concentre pas dessus.
Vous ne vous concentrez pas dessus. C'était le mot de la fin. Voilà, j'avais prévu 20 minutes. Voilà. Vous avez 20 minutes.